Les podcasts d'AFDS.TV. Les suppléments d'Aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Red Carpet, Sébastien Porcu.
Le Festival de La Rochelle, c'est parti, ça commence aujourd'hui. Donc on se rend ici juste devant les tentes où le public est accueilli, où il y a les points de presse également et différentes informations quant au déroulement du festival. Il fait plutôt bon, on a une petite brise qui souffle. Et justement, c'était l'occasion de voir et de prendre la température parmi les gens qui sont là. Alors, curieux, fans, nous avons été les rencontrer.
Nous sommes Rochelais et tous les ans, nous passons régulièrement à ce festival. Je pense que les Rochelais aiment bien ce festival par l'apport des acteurs qui passent ici. C'est quand même un festival qui se passe dans une ambiance assez simple et assez correcte. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut aborder les acteurs. Ça nous est arrivé et bon, a priori, ils répondent à peu près favorablement, pas toujours, mais quelques-uns.
Je suis venue depuis le début, mais bon, avec le temps, ça s'amoindrit. Pour moi, les choix sont plus difficiles. Parce que moi, ce qui m'intéressait le plus, les années précédentes aussi, c'est la programmation des films qui passent sur les télés étrangères, parce que de toute façon, on ne les verra pas en France.
C'était vraiment une promenade en famille, parce que ma famille vient du Nord et... Bah, voilà, pur hasard, je n'étais pas au courant qu'il y avait ça. Je crois pas que ce sera possible, mon mari travaille, mais oui, j'étais en train de regarder tout le monde qu'il y a, oui, c'est intéressant.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Voilà de retour sur cette 15e édition du Festival de la Fiction TV à La Rochelle. Alors il a commencé hier, il se déroulera du 11 au 15 septembre. Il réunit les amateurs de séries et les professionnels de la fiction. Pour rappel, le festival a été créé en 1998 par Quentin Raspail. Cette année, on dénombre plus de 50 œuvres françaises et internationales. Différentes catégories s'affrontent, bien entendu, les téléfilms unitaires, les comédies, les séries, les programmes courts, mais également les web-fictions. Dernier jour du festival oblige, 13 prix seront décernés lors de la cérémonie de clôture par le jury. Et cette année-ci, le président du jury est un poids lourd de l'univers télévisuel, puisqu'il s'agit d'Alexandre Astier. Comédien, scénariste, auteur, musicien, et j'en passe, le bonhomme est un touche-à-tout. Sa série Kaamelott l'a propulsé sur les devants de la scène, ce qui fait d'Alexandre Astier quelqu'un d'incontournable. Il cumule les projets, scénariste pour les bandes dessinées Kaamelott, comédien dans sa propre pièce de théâtre sur Jean-Sébastien Bach. En ce moment, il écrit et co-réalise le prochain long-métrage d'animation d'Astérix, Astérix et le domaine des dieux, et il a également un autre projet de série sur Canal+, appelé Vincia. Pour l'épauler, il a plusieurs personnalités du monde télévisuel, citant entre autres Marie Bunel, Xavier Deluc, Julie Gayet ou encore Jean-Claude Guérin. Au cours de cette cérémonie, Alexandre Astier n'y est pas allé de main morte avec son prédécesseur, ça c'est la petite anecdote croustillante. Il a taxé Antoine Decaune de fêtard qui roupillait pendant les projections. Il a d'ailleurs promis que son équipe éviterait les excès de la 14e édition. Un autre discours qui a été remarqué, c'est celui de Quentin Raspail. Si la présentation de l'actrice Sophie Mounico a suscité les rires du public, celle du président du festival avait de quoi inquiéter. Il a souligné les difficultés auxquelles la fiction doit faire face. Un chapitre important a d'ailleurs été consacré aux productions américaines. Quentin Raspail a parlé de leur nombre croissant sur les chaînes françaises. On pourra en dire d'ailleurs tout autant sur nos chaînes belges. Un choix qu'il a jugé regrettable car selon lui, ça dévalorise les fictions françaises. Le travail est en quelque sorte prémâché. Le président du festival a également parlé de la problématique de l'emploi des différents métiers de la fiction. Une conséquence bilatérale de l'invasion américaine des séries sur nos écrans. Le spectacle a ensuite débuté avec l'épisode spécial de Scènes de ménage entre amis. C'est une série qui suit les disputes de quatre couples, Emma et Fabien, qui sont les derniers arrivés dans la série, Huguette et Raymond, Cédric et Marion, et José et Liliane. Ça, sans aucun doute, c'est la grosse locomotive à audience de la chaîne française M6. Plus de 120 000 coffrets DVD ont été vendus. La série a même été déclinée en bande dessinée. Les replays sur Internet surchauffent. Et donc, c'est l'occasion pour les producteurs de proposer un épisode spécial rempli de guests en attendant la saison 5. On a pu voir entre autres Alexandre Astier, Michel Galabru, Marianne Chazelle, Max Boulby, Chantal Latsou, Laurent Deutsch, Isabelle Nanty et bien d'autres. Au final, il faut le reconnaître, c'est très efficace, les gags sont bien amenés, ça décoche vite, l'humour est tantôt subtil, tantôt farfelu. Bref, le public était hilar jusqu'à la fin, les acteurs, il faut le dire, incarnent très bien leurs personnages, on a vraiment l'impression qu'ils sont comme ça dans la vraie vie. Cet épisode spécial est pour moi un pari réussi, on ne peut que souhaiter l'arrivée de la saison 5.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Aujourd'hui, on va parler d'Innocent Lies, qui est une série tchèque en compétition internationale et européenne ici au Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Tout d'abord, le pitch, tout le monde a au moins une raison de ne pas dire la vérité. Dès qu'on voit ça, on sent qu'il va se passer un gros truc et c'est effectivement le cas. Innocent Lies est en quelque sorte une série de format long. Au contraire des mini-séries britanniques de 6 épisodes, il s'agit ici de 8 films, qui font 1h15 tout de même, dont la thématique varie et est influencée par le mensonge. Les sujets sont variés, harcèlement sexuel, perte de statut social, enquête de célébrité, etc. Alors nous, on va se concentrer sur l'épisode qui a été diffusé ce matin. C'est Chromosome, l'épisode 6. C'est l'histoire de Matej. Alors Matej, c'est un jeune garçon de 13 ans qui a deux mamans. Il est très proche d'Aneska, une fille d'un autre couple lesbien qui ne connaît pas non plus son père. Ces deux couples ont une amie en commun, Katka, qui travaille comme laborantine dans la section insémination. C'est d'ailleurs elle qui a aidé ses amis à procréer en volant des échantillons de sperme. Jusque-là, tout va bien, sauf que Matej et Aneska se rapprochent de plus en plus. Il est désormais temps pour Katia de révéler un terrible secret. En fait, les deux enfants sont issus du même échantillon. Alors qu'on pourrait s'attendre à un climax insoutenable lors de cette révélation, l'histoire prend en fait un tournant différent. Matej va partir à la recherche de son père, et à partir de ce moment-là, tout va changer autour de lui, et c'est vraiment toutes ces transformations, toutes ces déformations dues aux mensonges qu'on va regarder pendant le film. Au niveau réa, on est plutôt satisfait, les plans sont très beaux, les transitions bien agencées. Il y a aussi un côté très intimiste avec ces gros plans sur les mains, les lèvres, les yeux. C'est quelque chose de très sensoriel et le tout accompagné d'une bande-son qui est très délicate, il faut bien l'avouer. Au final, cet épisode d'Innocent Lies est une bonne surprise. Il propose une réflexion sur l'homosexualité, la procréation assistée, mais également sur la nature humaine. Un dialogue m'a particulièrement marqué au cours de l'épisode, sans trop vous spoiler. Un homme et une femme dînent au restaurant. Quand le sujet de l'insémination artificielle tombe sur la table, et l'homme dit que la procréation assistée pour les homosexuels est contre nature, que ces derniers devraient accepter finalement l'impossibilité de faire des enfants. Ce à quoi la femme va lui répondre, est-ce qu'on ne devrait pas en faire de même pour les couples stériles, puisque évidemment c'est également contre nature. Et finalement, c'est ça Innocent Lies, c'est des jeux de miroir entre les personnages, c'est des répliques qui fusent, des métaphores poétiques, celle du train notamment. À la fin de la projection, un débat a même été organisé. Il y avait très peu de monde, ce qui est un peu dommage pour un film qui a été applaudi aussi chaleureusement. C'était l'occasion donc de rencontrer Teresa Vrabelova et Yann Vrabel, qui sont mari et femme et qui ont réalisé la série. Je leur ai posé la question si leur film pouvait être vu un petit peu comme une fable moderne. Alors leur réponse, c'est que toute histoire est fictionnelle, mais évidemment, toute histoire a comme base la réalité. Pour eux, donc, si on fait de son mieux, on peut changer sa situation. Sans être moralisateur ni propagandiste, ils ont essayé d'y mettre des principes moraux, mais leur but n'était bien évidemment pas de les marteler, mais plutôt de laisser au spectateur la possibilité de faire son choix. Tout le monde peut lutter contre une situation qui ne lui plaît pas. Selon eux, il suffit juste d'en assumer les conséquences. Bref, Innocent Line est un petit bijou qu'il serait fort dommage de laisser de côté.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Cap maintenant pour Agatha Christie, où la file à l'extérieur était plutôt longue. Il faut dire que les fans étaient au rendez-vous et nous leur avons demandé pourquoi ils aiment tant la série.
Parce que j'aime tout ce qui est policier et ensuite le voir régulièrement à la télé. Je me suis dit qu'après tout, aller le voir sur grand écran, c'était pas mal non plus. Et puis c'est un nouveau, inédit, donc c'est une idée qui m'allait bien. Et j'aime bien le couple journaliste-commissaire, je trouve qu'ils sont bien tous les deux dans leur rôle respectif. Et puis on peut faire différentes façons de le filmer, les réalisateurs peuvent faire ce qu'ils veulent avec.
Moi c'est plutôt parce qu'on m'a fortement dit que c'était bien, donc du coup j'ai suivi la vie de mon ami. Effectivement, d'Agatha Christie, je connais les livres. Principalement. C'est vrai que de ce que j'en ai lu, ça me donne envie de voir tout ce qui peut se décliner autour d'elle, que les films principalement.
Ah ben, j'en ai déjà vu, je suis régulièrement à la télé, différents épisodes, donc je prends la suite.
Le changement de duo, justement, ne vous a pas un peu trop perturbé ?
Non, bon, pour que l'intrigue soit toujours la même, quoi, c'est le principal. Les acteurs, bon, ils jouent un peu leur rôle, mais enfin, c'est de faire valoir de l'histoire, quoi.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Direction les années 50 pour Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, saison 2. Visiblement, c'était quelque chose de très attendu par le public, car il y avait du monde qui faisait la queue. Les festivaliers ont pu découvrir le troisième épisode. Focus oblige sur un nouveau duo, Samuel Labarthe, dans le rôle du commissaire Lawrence, une sorte de machiste, cartésien et fin détective. Il est épaulé dans sa quête par Blandine Belavoir, une journaliste dénommée Avril. Elle est curieuse, rebelle et fonceuse, une sorte de duo improbable, en somme, comme on en voit souvent dans les fictions françaises. On joue sur les antagonistes pour renforcer l'aspect comédie. On est donc à milieu d'Antoine Duléry et Marius Colucci, qui était l'ancien duo des Petits Meurtres. Suite à des problèmes personnels, Antoine Duléry quitte la série alors que des épisodes sont encore prévus. C'est un coup de tonnerre dans la production, bien évidemment. Il faut réagir vite. Les producteurs ont alors une idée. Ils décident de tout changer en gardant les carcans de base, à savoir le titre de la série et l'intrigue policière basée sur les romans d'Agatha Christie. Fini les années 30 dans lesquelles évoluent le commissaire Larosière et son lieutenant Lampion, place désormais aux années 50. Et, grande nouveauté, la série introduit de l'humour de manière plus prononcée. Nous sommes vraiment dans une comédie policière qui est totalement assumée. Ce qu'on peut dire, c'est que le public réagit bien, même s'il faut l'avouer, les ficelles sont connues. Un duo chien-chat que tout oppose, des personnages au comportement burlesque, des gags que l'on sent venir à des kilomètres, et pourtant, il ne faut pas le nier, les petits meurtres d'Agatha Christie n'en demeurent pas moins une chouette expérience. Le tout est plaisant à regarder, même si on regrette un peu le manque de tension palpable. L'histoire tient la route suffisamment pour captiver. Au niveau technique, par contre, on sent vraiment la maîtrise, les plans sont bien léchés, les couleurs sont chatoyantes, la bande-son se marie agréablement bien avec les images, le montage confère un certain dynamisme à la série, ce qui tranche particulièrement avec la saison précédente. On sent que les producteurs cherchent à rajeunir leur audience car, il faut bien l'avouer, dans la salle où on était, le public était surtout composé de personnes d'âge mûr. Dans la suite de la série, on nous promet encore plus de rebondissements et de profondeur en personnages. La secrétaire du commissaire Laurence Marlène aura un rôle plus important et on explorera le passé des personnages principaux. Attention spoilers, dans un futur épisode, le commissaire Laurence aura la visite de sa mère qui sera jouée par Françoise Fabian. Elle essaiera d'ailleurs de la caser avec sa compère. Et dans un autre épisode, on apprendra qu'Avril a déjà été mariée dans sa jeunesse. Bref, de quoi garantir encore plein de rebondissements à une série qui est déjà un succès.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de No Limites, la série française événement de TF1. Du moins, c'est ce qui est noté sur l'invitation qu'on m'a remise. Au niveau scénario, on suit Vincent, qui est un agent de la DGSE. Il a atteint une maladie incurable et va être contacté par un département ô combien secret qui va lui proposer un traitement expérimental. Évidemment, il y a un mais, car Vincent va devoir réaliser des missions spéciales sur le territoire français. Alors, les épisodes qu'on a pu voir sont issus de la saison 2, pleines de rebondissements, on nous l'a promis. Si sur le papier, la série a l'air intéressante, eh bien, c'est nettement moins le cas lors de la projection. Le problème, c'est que les personnages sont tous des archétypes, le gentil flic torturé, le jeune résistant, le patron des méchants qui est vraiment, vraiment méchant, le partenaire marseillais rigolo et maladroit. Bref, c'est pas que les acteurs jouent mal, pas tous en tout cas, mais ils sont clairement limités par le peu de profondeur des personnages. Au niveau réalisation, ça veut imiter les Américains, mais ça n'en a pas l'ampleur et surtout, ça n'a rien d'original. On alterne péniblement avec des phases d'action et des moments de franche comédie, comprenez, prévisibles et loin d'être drôles. Très peu de rire dans la salle, mais on essaie de faire comme les séries policières américaines, alors cela doit probablement suffire. Cependant, il y a quand même des détails qui font rire. Quand il fait beau, on booste le son des grillons à vous en faire péter les tympans. Si vous êtes asiatique, vous maîtrisez forcément les arts martiaux comme Jet Li, etc., etc. L'épisode alterne également entre vie privée et vie professionnelle de Vincent, qui est incarné donc par Vincent Elbaz. Le problème, c'est que le personnage n'est guère intéressant. On sait qu'il est malade, mais c'est pas une raison pour en rajouter à ce point. Au cours de l'épisode, Vincent va faire une crise où il perd connaissance une première fois, puis une deuxième fois, puis encore une troisième fois où l'épisode se termine. On espère qu'une seule chose, c'est que ça sert vraiment à quelque chose, si ce n'est pour rajouter un suspense inutile pour garder le public éveillé. Moi, mon seul suspense de la soirée, c'était combien de temps est-ce que je vais pouvoir tenir ? À la fin du premier épisode, de nombreuses personnes quittent la salle, et honnêtement, on les comprend aisément. Il est clair que No Limites essaie d'attirer un public large et familial. Il faut dire que la comédie policière est un genre prisé par la chaîne TF1, Julie Lescaut, Femme de loi, sur Thérèse.com, etc. On sent aussi qu'elle a été formatée pour les heures de grande audience, elle est américanisée au possible, et on a envie de se demander est-ce que c'est vraiment de cela que parlait Quentin Raspel dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture. Honnêtement, j'en doute. Au final, à vous de juger si vous aimez, mais moi, je passe clairement mon tour.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
On va commencer ce nouveau podcast en parlant de mon coup de cœur du festival. Il s'agit de Generation Noir. C'est une mini-série allemande répartie en 3 épisodes d'une heure et demie. À la réalisation, Philippe Kadelbach, à l'écriture, Stéphane Kolditz, et à la production, la société Teamworks, dirigée par Benjamin Bénédicte. Generation Noir nous plonge à Berlin en 1941. Le premier épisode s'intitule Une autre époque et se déroule de juin jusque décembre. On a l'occasion donc de suivre l'histoire de 5 amis. Il y a Wilhelm, son frère Friedhelm, Victor, Charlotte et Greta. Le début de la narration nous est conté par l'un des 5 protagonistes et va vite expliquer rapidement qui est qui et quelles sont les relations qui existent entre eux. Le destin de ses amis va changer à tout jamais et ces jeunes de 18 ans vont traverser la Seconde Guerre mondiale et évidemment ils n'en sortiront pas indemnes. Ils savent qu'une guerre se prépare mais on ignore l'ampleur. Ils décident donc tous de se faire une promesse, se retrouver à Noël à Berlin tous ensemble. Mais voilà, le contexte va influencer leur vie. Wilhelm et Friedhelm partent au front tous les deux avec des idéaux différents sur la guerre. Également Victor, il est juif et il est fou amoureux de l'allemande Greta. Mais leur idylle va connaître la tourmente quand Greta va devenir la maîtresse d'un officier nazi. Et pour finir, on a Charlotte, qui est un personnage qui va s'engager comme infirmière de guerre. Le petit plus de Generation War, c'est également que l'histoire nous raconte le point de vue de 4 Allemands et un Juif. Et c'est enfin fini le manichéisme du vilain Allemand et du pauvre Juif. Une manière également de montrer que la souffrance a eu lieu dans les deux camps, surtout pour ces jeunes qui affrontent la guerre sans même en avoir été préparés. Tous ces personnages ont des contradictions, des remises en question, mais au final, ils essayent tous d'agir au mieux. Comme le dirait un des protagonistes, il faut faire le deuil du monde que nous connaissons. Et qu'est-ce que ce monde est bien réalisé, les jeux de lumière sont sublimes, l'esthétique aux couleurs froides nous plonge vraiment au cœur du récit, la dramaturgie est rudement bien maîtrisée, attendez-vous à rester bouche bée plusieurs fois pendant l'épisode. À la fin de la projection, les applaudissements ont fusé tout au long du générique, l'émotion était vraiment palpable dans la salle, l'occasion pour les organisateurs de proposer une masterclass filmée pour être intégrée dans le DVD de la série, qui doit paraître normalement en novembre. C'était un véritable échange entre l'auteur et le producteur et ça a permis à tout le monde qui était présent d'en apprendre un peu plus sur Generation War, qui a été un véritable succès en Allemagne. Il était diffusé sur la chaîne publique ZDF et il a été suivi par 7 millions de téléspectateurs en moyenne, c'est tout de même énorme. Le journal Der Spiegel l'a également encensé, pour eux, il y avait un avant et un après Generation War. Après cette masterclass, nous avons été recueillir les impressions de Benjamin Bénédicte, producteur de la série.
C'était vraiment une discussion très intense avec le public et évidemment, on a fait le film surtout avec l'orientation vers le public allemand, mais maintenant on réalise qu'on a la grande chance que ce film est diffusé dans les différents pays. On a vu une diffusion en Suède, on a eu une diffusion en Pologne, une diffusion en Angleterre va prendre place en novembre et comme ça pour nous c'est vraiment un cadeau d'avoir la possibilité de parler avec les gens et évidemment on a beaucoup aimé que les gens réagissent d'une façon très intéressante car ils disent qu'ils se posent beaucoup de questions sur leur histoire, sur la relation franco-allemande.
Au final, la série se veut le témoin de cette jeune génération qui a connu la Seconde Guerre mondiale, bien écrite, bien réalisée, l'acting est très bon. Honnêtement, on ne peut qu'être touché par le réalisme et la finesse qui s'en dégage. Chercheurs d'or, arrêtez-vous, nous avons trouvé une pépite.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.
Voilà, le festival de la fiction TV, c'est bel et bien fini. Il est temps de découvrir les productions récompensées. Dans la catégorie téléfilm, c'est Meurtre en trois actes de Claude Mouriras qui s'est fait distinguer. Interprété par la troupe de la Comédie française, le jury a félicité Hervé Pierre pour sa prestation. Du côté des comédies, c'est des frères et des sœurs qui l'emportent. Réalisé par Anne Giaferi, cette histoire de famille bien ficelée nous plonge quelques jours avant l'enterrement du père. L'occasion pour les quatre frères et sœurs de se remémorer leurs souvenirs. Le prix de la meilleure série est attribué à Profilage, une série policière française qui fonctionne à merveille, il faut le dire. Les audiences en hausse, c'est un record de 7,4 millions de téléspectateurs pour sa saison 3. Il s'agit de la fiction policière française qui marche le mieux. Le meilleur programme court est décerné quant à lui à La Minute Vieille, des vieilles dames qui nous racontent leurs histoires et leurs blagues salaces. C'est très décalé, ça marche du tonnerre. La série compte déjà 81 épisodes et honnêtement, on ne s'en lasse pas. Sur le web, c'est Les Petits à propos qui remportent le prix. Réalisé par Jimmy Conchou, il met en scène des conversations de personnes sur des thèmes ahurissants. Bénéficiant d'un noir et blanc soigné, c'est une très bonne découverte. Jérôme Cornuau empoche quant à lui le plus gros pactole. Son téléfilm C'est pas de l'amour réunit Déborah François et Marie Guillard sur le thème de la violence conjugale. Il remporte à la fois le prix de la meilleure réalisation et de la meilleure interprétation féminine pour Marie Guillard. Le label Poitou-Charentes a également décidé d'attribuer un prix à ce téléfilm. Jean-Luc Esteb et Vincent Lambert peuvent se réjouir également puisque leur téléfilm Vaughan a reçu deux prix, celui du meilleur scénario et de la meilleure interprétation masculine pour Olivier Marchal. Le téléfilm Nom de code Rose d'Arnaud Mercadier a également été félicité pour sa bande-son. La Grande Sophie leur a permis d'empocher le prix de la meilleure musique. Le prix du jeune espoir féminin est attribué à Elodie Frank pour le rôle de la secrétaire Marlène dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. C'est marrant parce que c'est un personnage auquel les producteurs ont d'ailleurs décidé d'accorder plus d'importance, donc c'est plutôt bien tombé. Ce prix a été remis par l'ADAMI, qui est une société de gestion des droits de propriété intellectuelle des artistes. L'ADAMI qui a aussi couronné Tom Hudson comme espoir masculin. Il a été félicité pour son rôle de Tom dans Delete Fuit de Thierry Binisty. La réalisatrice Valérie Donzelli a aussi été primée pour sa direction artistique dans Que d'amour, son téléfilm comique. Le prix de la meilleure fiction européenne internationale a été décerné à la sublime série Generation War, qui, je vous le rappelle, est notre coup de cœur du festival. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite tout de suite à découvrir le podcast qui s'y rapporte. Orphan Black de John Fawcett a également reçu une mention spéciale du jury européen. Ce thriller fantastique a su retenir l'attention du jury par son univers. Cette année, un nouveau prix a été créé, celui de la meilleure nouvelle série, en partenariat avec téléloisirs.fr. Les internautes étaient amenés à voter et au terme d'un mois de compétition, c'est la série Falco d'Alexandre Laurent qui l'a emporté. Le festival de la fiction TV s'est désormais terminé, alors on peut dire de belles choses ont été proposées. Par exemple, l'ouverture croissante du festival vers les fictions européennes et internationales, qui est une très bonne chose, ça permet de découvrir de petites pépites, comme par exemple Generation War. Ça permet également aux chaînes de se rendre compte de la richesse du paysage télévisuel au-delà même de nos propres frontières. Et c'est grâce à de telles initiatives qu'une telle réflexion peut se créer sur nos modes de consommation de fiction. Mon conseil, c'est rester exigeant dans vos choix, car nous méritons le meilleur de la fiction.
Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries.